Les passions de Camille avec Camille Chai.
Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec nous faire un peu une promenade ou en tout cas, vous verrez, nos invités ont tous les deux, je dirais, des âmes d'aventuriers et même de voyageurs. Alors, je reçois en premier René Dallaire, qui est le fondateur et président du conseil d'administration de l'Association québécoise de voile adaptée. Et je recevrai en second lieu dans l'émission Maxime Gagnon, qui est le président directeur général chez Altergo. Il est aussi entraîneur, mais fait beaucoup de choses dans sa vie. Bref, on découvre tout ça ensemble et c'est tout de suite à Les passions de Camille. Alors, c'est avec plaisir que je reçois René Dallaire. On fait sa rencontre aujourd'hui. C'est un homme qui a 71 ans, qui est en couple depuis 14 ans, peut-être plus, il va nous le dire, nous le raconter. Il est natif de Rouyn-Noranda, mais il vit à Montréal depuis plusieurs années. Bonjour, René Dallaire.
Oui, bonjour, Camille.
Comment allez-vous?
Oui, ça va. Écoutez, ça va très bien.
Alors, oui. On est ensemble aujourd'hui pour parler de votre vie, de ce qui vous passionne, mais aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez travaillé pendant 25 ans au gouvernement, pour le gouvernement, en services sociaux.
En fait, oui, j'étais dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'étais administrateur dans un hôpital, ouais.
Quand même, puis pendant 25 ans, c'est une sacrée période, ça a été une bonne partie de votre vie.
Effectivement, oui. Oui. Ça a été, dans le fond, la carrière que j'ai choisie après mon accident.
Et voilà, et justement, on y arrive parce que vous avez eu un accident à l'âge de 19 ans, donc ça fait...
Ouais, j'étais à une semaine d'avoir 19 ans.
Ah oui, quand même.
Donc, je partage une semaine d'anniversaire avec moi. Depuis ce temps-là. Mm-hmm. J'ai l'anniversaire de mon accident.
Oui.
Et une semaine plus tard, j'ai l'anniversaire de ma naissance.
Incroyable.
C'est assez particulier.
Oui, j'allais dire comment on vit. C'est des émotions différentes, très rapprochées.
Oui, c'est des émotions différentes. Et après le nombre d'années, maintenant, c'est vous avez parlé de 71 ans. En fait, j'ai 70 ans.
70,
mais,
d'accord.
Mais ça fait 51 ans. Que j'ai eu mon accident.
D'accord.
Vous comprenez qu'avec les années, la partie accident ou la partie de vie en fauteuil roulant, pour moi, a pris nettement le dessus. Et puis, chaque année, c'est une émotion d'accomplissement que je vis. Une émotion d'avoir vécu tellement d'années, plus que ce qui était prévu au départ.
Mm-hmm.
Parce que le médecin, lorsque j'ai eu mon accident, le médecin ne donnait pas beaucoup de temps à mes parents. Ils avaient dit à mes parents que j'en avais pour quelques semaines ou pas beaucoup plus.
Ah oui, puis, c'était beaucoup plus grave que la réalité,
ouais.
En fait.
Que la réalité qui est devenue, oui.
Oui.
Ouais. Mais ça passe proche.
Quand même. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les circonstances de cet accident?
Oui, c'était... J'étais une personne qui faisait de la compétition de ski. Je faisais partie d'une équipe de ski. En fait, originaire de Rouyn-Noranda, c'était l'équipe du Nord-Ontario. Parce qu'à l'époque, les déplacements étaient plus facile vers le nord de l'Ontario, qui avait des équipes là, à des distances, qui avait d'autres skieurs et d'autres équipes de compétition qui étaient à des distances moins grandes que de Rouyn-Noranda, traverser le parc, aller rejoindre les Laurentides et puis souvent aller ailleurs. Ça impliquait des grands déplacements au Québec, fait que ça a été plus naturel d'aller vers l'Ontario. Et puis, je faisais donc du ski depuis 5 ans dans cette équipe-là.
Mm.
Et lors d'une petite compétition, ben, j'étais en slalom géant et j'ai quitté le parcours, non seulement le parcours, mais la piste. Et puis, sans vouloir revenir sur la piste, que j'ai vu un arbre devant moi, j'ai essayé de l'éviter, mais il n'a pas voulu ça. Je l'ai frappé directement à la nuque. Ça a été une paralysie instantanée. J'ai paralysé, j'ai tombé la tête dans la neige. Et puis voilà, c'était de là, c'est là que tout s'est enchaîné. C'est là que la vie a complètement pris un autre tournant pour moi.
Ben oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Donc vous êtes tétraplégique à 100%.
Ouais. Oui, c'est ça. Je me considère comme un tétraplégique complet. Okay. Et puis, j'utilise, donc je n'ai pas les airs de mes bras et de mes jambes. J'utilise un fauteuil roulant motorisé que je contrôle avec l'arrière de ma tête en poussant sur un mécanisme là, qui normalement serait poussé, serait utilisé avec la main.
Ben oui, c'est ce qu'on essaie de s'imaginer. On voit bon, souvent les personnes qui sont en fauteuil motorisé, oui, ils ont quand même un peu la mobilité au niveau de la main, mais vous, c'est vraiment... Donc, votre tête, c'est le cas de le dire, mais elle est très importante et elle remplace et aussi tous vos membres.
Exact. Oui, c'est vraiment la tête et tout ce qui est autour de la tête. Mm-hmm. J'utilise, entre autres, un bâton buccal pour accéder à mon téléphone, appeler un ascenseur, tout ce qui a besoin d'être touché est fait avec des bâtons. Les choses pour boire et tout ça sont près de moi, sur mon fauteuil roulant motorisé. J'essaie d'être le plus possible autonome dans mes actions, dans mes pensées. Et c'est vraiment une tête à tout faire.
C'est trop, que c'est bien dit, c'est bien dit. Ouais. On sent qu'il y a un peu de poésie, non, qui fait partie de vous.
Ben, j'essaie autant que possible d'être autant que... La sérénité, pour moi, c'est très important.
Ouais.
De regarder les choses qui sont positives sont également... de s'attarder au positif et de chasser le négatif, pour moi, c'est majeur dans ma vie.
Oui, mais vous avez bien raison. Et j'ai envie de dire que pour tout le monde, c'est toujours une notion de vie qui est importante de se rappeler. Parce que oui, on peut à tout moment perdre un peu pied, puis monter, descendre. Mais non, quand même, c'est une très belle philosophie de vie.
Merci. Ouais.
Et quand on parle de fauteuil motorisé, vous, d'ailleurs, vous avez été un des premiers, sinon le premier, à avoir utilisé la première entreprise de transport adapté à Montréal.
Exact. J'étais aux études ici à Montréal. J'avais déjà trouvé mon propre moyen de déplacement, mais ça prenait un chauffeur.
Oui.
Le minibus est arrivé. Le minibus forêt à l'époque est arrivé et rapidement, je l'ai utilisé pour me rendre à l'université. J'étais un résident à ce moment-là de la maison Lucie Bruneau. La maison Lucie Bruneau, ça a été ma résidence d'étudiant là, à l'époque. Il n'y avait pas grand hébergement disponible là, pour une personne comme moi qui pouvait en même temps jumeler les services là, de préposés que j'avais besoin. C'était une denrée rare là, comme solution. J'ai eu l'heureuse possibilité là, de découvrir la maison Lucie Bruneau à ce moment-là.
Mm-hmm.
J'ai eu des très bons souvenirs de ce séjour-là. J'ai été là pendant 3 ans, puis ça a été très, très bien.
Ouais. On sait que ça fait toute une différence de recevoir justement un soutien et un lieu de vie hein, qui est adapté à nos besoins quand on est dans une situation comme la vôtre et surtout à ce moment-là. Je vous propose qu'on ait écouté une chanson qui, je suis sûre, réchauffe votre cœur et vous allez nous expliquer pourquoi après l'avoir entendue.
D'accord. Merci.
Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches fières dans le vent. Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune et ses chevaux de brume et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir où passent sans se voir des nuages de laine et les soirs de tempête dans la colère du ciel. Entendre une baleine appeler son amour. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Ses canons pour entendre le rire de 100 millions d'enfants qui n'ont pas peur de l'eau, qui ont envie de vivre sans tenir un drapeau. Je voudrais voir la mer, ces monstres imaginaires, ces Hollandais volants et ces bateaux de guerre, son cimetière marin et son lit de corail où dorment les requins dans des draps de satin. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle. Je vis dans une bulle, au milieu d'une ville. Parfois mon cœur est gris, et derrière la fenêtre, je sens tomber l'ennui sur les visages blêmes et sous les pas pesants que traînent les passants. Alors du fond de moi se lève un vent du large, aussi fort que l'orage. De la vague.
C'était la chanson « Je voudrais voir la mer » de Michel Rivard et René Dallaire. C'est vous qui avez choisi cette chanson. Pourquoi?
Ben, c'est toute l'évocation du calme qui existe là, sur l'eau, qui me rappelle beaucoup toutes les sorties de voile que j'ai faites depuis la naissance de cette passion que j'ai développée là, grâce à la découverte de la voile.
Oui. Et c'est une passion qui est apparue dans votre vie à quel moment?
C'est en 1994. J'avais eu une invitation d'une personne qui s'appelle Sam Sullivan de Vancouver et qui avait démarré lui-même un programme de voile. Et à ce moment-là, il m'a rejoint en plein milieu de l'hiver pour me dire que je pourrais diriger un voilier par moi-même.
Est-ce que vous avez cru quand il vous l'a dit?
Pas du tout.
C'est ça.
Pas du tout. Je l'ai pris très à la légère au départ. Mm-hmm. En plus, pour moi, voyager avait été quelque chose que j'avais laissé de côté après mon accident. J'en avais fait très peu de voyages. Je ne sais pas que ce n'était pas disponible. C'est la complexité plus que d'autres choses.
Oui, on imagine.
Et puis, la motivation. Hein. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'intensité à faire ma carrière et à travailler, dans le fond.
Oui, oui, il fallait bien.
Et j'avais peu de choses que j'avais réussi à me permettre autrement que ça. J'ai fini par accepter d'aller à Vancouver et j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment transformé. Et dès le retour, la personne qui m'avait accompagné pour le voyage, j'ai en discutant avec lui, Jean-Michel Lefebvre, qui s'appelait, je lui ai dit, c'est trop beau là, ce qu'on vient de vivre, là, qu'est-ce que tu en penses, si on ramenait ça au Québec. Et je lui ai dit, si je fais ça, est-ce que tu vas t'embarquer dans le projet? Et son enthousiasme m'a convaincu que j'avais une bonne idée. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a été plusieurs personnes, comme Jean-Michel, se sont succédés là, au cours des années pour m'aider à monter un programme de voile à Pointe-Claire et faire plusieurs tentatives à l'extérieur de Montréal pour développer la voile et la faire vivre là, à des personnes handicapées. D'ailleurs, c'est encore quelque chose qui est un objectif très grand pour l'association. C'est qu'il y ait plus de programmes de voile adaptés dans toutes les régions du Québec.
Mm-hmm.
Ouais.
Donc, c'est un message hein, que vous lancez à nos auditeurs, entre autres, s'il y en a qui entendent
tout
ça et qui ont envie de mettre le vent dans les voiles. En tout cas, le message est entendu, René, et ça ferait tellement plaisir, non seulement pour vous, mais pour toutes les personnes qui pourraient en profiter, mais surtout, si on s'appuie sur votre histoire à vous, de pouvoir ne serait-ce que seulement découvrir ce loisir, ce sport, cette activité.
En fait, c'est plus qu'un loisir, c'est un sentiment de liberté qu'une personne en fauteuil roulant a très peu d'occasion de faire.
Ouais.
Imaginez, la personne est en mesure de sortir de son fauteuil roulant,
oui.
Embarquer dans un voilier, s'asseoir et le diriger elle-même.
Oui.
C'est vraiment exceptionnel. Et si vous voyez les sourires des gens qui reviennent après leur première sortie, vous comprendriez tout.
Mais ça donne envie, justement. On est tellement curieux parce qu'il y a plein de questions qui me viennent en tête, même le côté technique Déjà, un, vous, comment vous vous débrouillez? À quel point la voile est adaptée?
Effectivement, c'est que moi, j'utilise des pailles, deux pailles, une qui contrôle les voiles et une qui contrôle le gouvernail. Et c'est de cette façon-là, en aspirant, les voiles peuvent rentrer à l'intérieur et donc monter le vent. Et lorsque je veux descendre le vent, c'est-à-dire avoir le vent dans le dos, ben, je laisse aller les voiles et le voilier, avec l'aide du gouvernail, va se placer sous le vent. Et c'est comme ça que je suis en mesure de diriger le voilier. Évidemment, ça se fait ça avec des moteurs, oui. Des enrouleurs, d'écoutes, qu'on appelle des écoutes, c'est des cordes, qui permettent là, de faire déplacer soit le gouvernail ou les voiles.
Mm-hmm.
C'est des termes de voile. Et puis, dans le fond, les enrouleurs, ben, ils vont tirer la corde et puis ou la détendre selon que je aspire ou je souffle dans les tubes.
Mais comment...
C'est fonctionnel.
Non, mais c'est incroyable. À vous entendre, j'ai le poil qui m'hérisse sur le bras parce que c'est tellement impressionnant. Comment vous faites? Est-ce que vous avez pour sentir le vent, par exemple?
Oui.
Où vous sentez ces sensations?
Ben, je les sens avec moi. Je les sens avec ma tête, là, dans le fond. Et je le vois, là. Je peux voir aussi. On a des guides qui nous aident à voir la direction du vent aussi. Ne serait-ce que des petites lanières là, qui sont attachées sur les bordures, les haubans, qu'on appelle. Et puis, on voit là, un peu comme les ballons qu'on auprès des aéroports,
oui.
Qui donnent c'est des petites lanières qui permettent de voir la direction du vent. Et ça nous permet à ce moment-là de placer le voilier en conséquence pour aller chercher le maximum du vent dans l'angle qu'on en a besoin.
Et là, une autre question, hein, parce que là, ça ne s'arrête plus. Vous nous lancez sur un sujet qui est passionnant, c'est le cas de le dire. Est-ce qu'il est possible de tomber à l'eau sur un voilier?
Non, tout à fait. Les voiliers qu'on a sont des voiliers extrêmement sécuritaires. La personne handicapée, là, elle est assise assez profond dans le voilier.
D'accord.
Et puis, le voilier a une quille de 175 kilos. C'est pesant. Et puis, ça empêche le voilier de chavirer. Puis même si le voilier était rempli d'eau, le voilier est conçu avec une flottaison neutre, c'est-à-dire que même rempli d'eau, il ne coulera pas. Fait que c'est vraiment à toute épreuve. Ça fait depuis 1995 qu'on a ce type de voilier-là,
oui.
dans nos programmes de voile, et il n'y a jamais personne qui a chaviré. Il y a eu des personnes qui ont pu tomber à l'eau à l'occasion. Encore là, on a un exemple d'une personne handicapée, puis un exemple d'une personne qui était l'entraîneur, parce qu'il faut dire qu'il y a une personne qui est un entraîneur, là, qui est un instructeur ou un compagnon de voile,
mm-hmm.
qui accompagne la personne handicapée.
Donc oui, c'est très, très sécuritaire, puis, on est encadré.
Tout à fait. Ouais.
Ah non, allez-y, je vous en prie.
Oh, ben, je parlais des exemples.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce sens-là, à chaque fois, là, les manœuvres se sont déroulées de façon ordonnée et ça a pas donné lieu à
pas de problème. Oui.
Malheureusement, non.
Ouais. Et la vitesse à laquelle vous pouvez aller, pour nous faire rêver un peu, c'est jusqu'à combien?
Ben, c'est tributaire de la vitesse du vent, évidemment. Mm-hmm. Et puis, parce que c'est vraiment pas la vitesse qui est l'objectif en voile.
Okay.
En voile, l'objectif, c'est la paix, la liberté et la combinaison là, d'écouter le vent et et de faire diriger le voilier dans le sens du vent. Et c'est une habileté qui se développe et qui, à mesure qu'elle se développe, à mesure qu'elle remplit là, l'esprit, ou tu sais, la réussite est obtenue de cette façon-là. Ce qui est vraiment agréable en voile, c'est vraiment le silence,
oui.
La liberté. Et il n'y a pas de vitesse qui fait une grande différence. C'est sûr que lorsqu'il y a beaucoup de vent, il y a plus de défis.
Oui.
Il y a plus de défis. Mais d'ailleurs, on est très respectueux du vent de ce côté-là.
Oui, vous travaillez avec lui. Il est votre...
On travaille. Oui. On travaille vraiment avec lui et on va le défier le moins possible. De sorte que si les vents sont trop élevés, ben, on est obligé d'arrêter. On ne fait pas de sortie.
Okay,
à ce moment-là, question de sécurité et aussi question de protéger l'équipement.
Okay.
C'est vraiment une harmonie. La recherche d'une harmonie qui est faite en voile et non pas une affaire de casse-cou.
Mais vous savez, M. Dallaire, c'est tellement... Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est comme de la poésie de vous entendre nous raconter cette passion que vous avez. Mm-hmm. Mais alors que vous êtes tétraplégique, au final, c'est pas du tout ce qu'on entend, parce que c'est l'essence, le moment présent, le calme, la douceur, l'eau. Franchement, c'est magnifique de vous entendre. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour naviguer avec vous, j'ai envie de dire. Mais je tiens à non seulement vous remercier pour ce beau moment, mais je vous souhaite de pouvoir voir la mer, justement, mais surtout d'avoir une belle saison de voile cet été.
Bien, merci. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on va avoir.
Oui.
Parce qu'avec la COVID, c'est sûr que c'est moins facile.
Ça change, oui.
Mais
on vous souhaite le meilleur quand même.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Ouais. Bonjour.
Et restez avec nous parce qu'après la pause, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Gagnon. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chai.
Oui, Camille Chai toujours présente avec vous et j'ai le plaisir de recevoir mon deuxième invité qui s'appelle Maxime Gagnon. Il est président directeur général chez Altergo et aussi entraîneur, mais c'est surtout un homme très occupé, alors on a de la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Maxime Gagnon.
Bonjour, comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très bien, merci.
Je le mentionne tout de suite, hein, Maxime, aux auditeurs, mais on se connaît, toi et moi, justement par l'entremise d'Altergo. On a travaillé ensemble, on a... d'ailleurs, je pensais à ça, c'est toi qui m'as même initié au golf.
Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, j'étais initié au golf. On s'est rencontrés dans ton autre vie d'escrimeuse.
Oui.
C'est là qu'on avait eu un premier contact ensemble. Donc oui, plein de belles choses nous sont arrivées ensemble.
Exactement. Et là, bon, évidemment, on va parler d'Altergo, c'est obligé, mais j'ai envie d'en savoir plus aussi sur toi, sur l'homme... que tu es plus dans ta vie personnelle, si tu es d'accord de t'ouvrir un petit peu à nous de cette façon-là. J'aimerais, en fait, pour commencer, savoir d'où tu viens, toi. Où est-ce que tu as grandi?
Alors, je suis un petit bleuet. Je viens du Saguenay. Je viens de Ville-de-la-Baie, Port-Alfred, précisément. Donc, je suis né là-bas. Mes parents ont voyagé beaucoup. Dans mes premières années de vie, on a déménagé 11 fois en 10 ans. Donc, c'est ça. À la blague, souvent, on dit souvent que j'ai pas d'amis d'enfance parce que j'ai tellement déménagé entre Montréal et le Saguenay qu'à un moment donné, mes racines sont où, je les cherche, mais je suis natif du Saguenay.
Quand même. Comment ça se passait pour toi, justement, au niveau de l'école, puis tu parles des amis, de changer tout le temps, parce que je dis oui, t'as une âme d'aventurier et de voyageur, ça, c'est sans aucun doute, là.
Mais je te dirais que c'est les clubs sportifs souvent qui nous attachaient. Le fait de rentrer dans une équipe. Quand tu rentres dans une équipe sportive, j'étais un jeune homme qui jouait au baseball, qui jouait au hockey. Donc, c'est ce qui me rattachait souvent avec une gang. Tu rentres dans une gang, c'est apprécié. Tu sais, c'est pas comme rentrer dans une nouvelle école ou une nouvelle classe. Mais quand tu rentres dans un nouveau club, tu amènes quelque chose de nouveau, tu amènes quelque chose des fois que l'équipe n'a pas. Ben souvent, c'est l'acceptation est plus facile. Donc, c'est de cette façon-là, je pense que ça s'est fait.
Donc, la place du sport, oui, ça, le sport a occupé une énorme place très rapidement dans ton enfance.
Oui, il l'occupe toujours.
Eh bien, bien sûr, parce que là, tu es entraîneur. Parle-moi un peu de tout ça. Je veux dire, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas parlé, toi et moi, mais je suis sûre qu'il y a des nouvelles choses à ton agenda.
Oui. Ben à la base, c'est que depuis que je suis chez Altergo, depuis 26 ans, j'ai gravi chacun des échelons un par un, toujours accompagné de Monique Lefebvre. J'ai pas rien sauté, j'ai pas pris la place de personne. Chaque fois qu'il y avait une opportunité, on grandissait ensemble, Monique et moi, on faisait grandir l'organisation. Et à un moment donné, viens que tu deviens un peu plus gestionnaire, donc tu as moins le contact avec les athlètes. Donc, j'ai essayé de trouver une façon de garder ce contact-là avec les athlètes. Et j'ai des athlètes qui m'avaient demandé de démarrer un peu la promotion du para-hockey, qui s'appelait le hockey luge avant, de faire la promotion de ce sport-là. Donc, j'ai regardé, je leur ai demandé un peu comment ça fonctionnait, comment était leur structure. Puis, ils n'étaient pas vraiment structurés, donc j'ai dit, écoutez, je peux vous donner un coup de main. Et de fil en aiguille, 11 ans plus tard, on est parti de 10 joueurs de para-hockey au Québec. Présentement, on était, avant la pandémie, on était 160 joueurs, 8 régions au Québec.
Quand même.
Donc, on est très, du bénévolat pur avec différents bénévoles dans différentes régions qui sont impliqués eux autres aussi, qui avaient cette passion-là et qu'ils ont toujours parce qu'on reste en contact malgré tout, même si on n'a pas joué depuis un an et demi.
Oui.
On reste en contact puis on a hâte qu'en septembre prochain, ça reparte. Mais c'est 25 heures de bénévolat par semaine environ là, que ça me demande de m'investir pour ça. Mais de me lever à 6h30 le samedi matin. La semaine, je me lève à 7h, mais le samedi matin, je me lève à 6h30 pour aller à l'aréna, pour avoir ce contact-là avec les jeunes, avec les plus vieux, souvent aussi, qui retrouvent goût à la vie par le sport. Je pense que c'est hyper important d'avoir un réseau social aussi, d'avoir une gang à qui tu as un sentiment d'appartenance. J'en parlais tout à l'heure, tu sais. L'équipe, c'est souvent ça qui fait que les boys, tu sais, ou les girls dans une équipe, c'est souvent ça qui est le fun, puis qui donne un sentiment d'appartenance, puis un goût de vie. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec le para-hockey.
Et juste en quelques mots, pour les gens, en fait, qui ne savent pas à quoi ressemble le para-hockey, techniquement, c'est quoi? C'est quoi les adaptations?
C'est la même chose que le hockey debout, à l'exception qu'au lieu d'avoir des patins, c'est un genre de siège avec deux lames en dessous qui sont la même longueur qu'une lame de patin environ. Et tu peux avoir une place pour mettre tes jambes. Et pour pousser, tu as deux bâtons au lieu de juste un, parce que sinon tu tourneras en rond. Et au bout des bâtons, c'est des petits pics, un peu comme du patinage artistique. Des petites dents, là, c'est des petites dents comme ça qu'il y a au bout des bâtons pour pouvoir s'avancer. Mais sinon, c'est les mêmes règlements, la même rondelle, la même grandeur de but, les hors-jeux. Ça joue avec contact aussi à certaines catégories, avec le haut du corps. Donc, un sport très exigeant, mais qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup au hockey debout.
Mais donc, il faut quand même, malgré tout, au moins avoir l'usage de ses deux bras.
Oui, c'est l'idéal. Sinon, c'est les bras un petit peu plus faibles. Pour certains jeunes, on met un pousseux qu'on appelle. Donc, c'est une barre que quelqu'un peut être patiné derrière ce jeune-là et le pousser. Donc, ça va aider ce jeune-là à avoir, il y a des règlements bien précis, mais ça va aider aux jeunes, justement, à se motiver, à endurcir et à renforcer ses bras. Donc, c'est vraiment un beau sport, puis très, très, très inclusif, c'est ce qu'on aime.
Oui, c'est ça le but. Et toi, en tant qu'athlète, quelle valeur tu veux transmettre, en tant qu'entraîneur plutôt, qu'est-ce que tu veux transmettre comme valeur à tes athlètes? Est-ce qu'il y a une phrase que tu leur dis tout le temps, qu'ils entendent tout le temps, puis que tu t'entêtes à leur répéter?
Sans avoir une phrase clé, mais je pense que l'esprit d'équipe est important pour moi, puis je le fais autant dans mon travail que dans mon sport. Je crois que chaque individu est différent. C'est ce qui fait la force d'une équipe. Si tu prends tous les joueurs qui frappent fort dans les coins, tu ne scoreras pas beaucoup de buts, comme on dit. Puis si tu prends des gens qui sont de toutes les différences puis qui ont chacun un talent différent, c'est ce qui fait que ton équipe est forte. Et je le fais aussi dans le cadre du travail chez Altergo. Là, on est rendu à plus de 25 employés maintenant chez Altergo. Et je te dirais que quand on se présente à un nouvel employé, il reste tout le temps surpris de voir la diversité et le background de chacun. Puis de voir qu'on a une seule force, c'est Altergo, puis on s'unit vers ça. Fait que moi, je pense que c'est d'avoir une ouverture, puis d'avoir cet esprit d'équipe-là, puis de jamais avoir peur d'essayer parce que tu as tout le temps quelqu'un qui va être en arrière de toi pour te backer ou t'appuyer ou t'aider à progresser. L'esprit d'équipe.
Mais même tu l'as, mais c'est vrai que je veux dire, ça fait partie de ton ton mode de vie? Parce que quand tu me dis que, bon, il y a plus de 160 athlètes aujourd'hui de partout, un petit peu à travers le Québec, toi, tu es allé chercher des athlètes, justement, plus en région pour agrandir cette famille, hein, si j'ai envie de dire ça.
C'est exactement, oui, c'est ce qu'on veut. On veut travailler avec ces gens-là qui n'ont pas la chance souvent d'avoir une pratique. Souvent, les sports d'équipe en région, c'est pas évident. Mais le hockey, c'est notre sport national, donc c'est plus facile. Mmh. Puis le fait aussi que le para-hockey accepte les gens qui n'ont pas d'handicap jusqu'à un certain niveau, ben ça aussi, ça aide aussi pour créer un bassin, une participation, être plus inclusif. Là. Donc, ça aide ça aussi.
Complètement. Mais c'est beau parce que c'est des jeunes qui, comme tu dis, juste parce qu'ils habitent dans un endroit un peu plus bon reculé, ils n'auraient jamais eu la chance de découvrir ce sport-là et toutes ces opportunités.
Mmh. Ils peuvent le faire en patinage libre aussi à ce moment-là. Oui. Ils peuvent embarquer sur une demi-glace pendant qu'il y a un autre club qui joue de l'autre côté. Ça fait de la sensibilisation. Donc, je pense que tout le monde est gagnant là-dedans.
Oui, complètement. Et pourquoi, Maxime, avoir choisi de travailler justement au quotidien avec le handicap?
Un pur hasard. Écoute, je revenais du Saguenay parce que j'avais pris un contrat là-bas. Je voulais refaire ma vie au Saguenay. Je me suis dit, j'aimerais ça retourner à mes racines. Et malheureusement, c'était pas fait pour moi. J'avais trop goûté à la grande ville, mais j'aime quand même retourner au Saguenay régulièrement. Et à un moment donné, je suis revenu, puis j'étais chez ma belle-sœur, puis il y avait dans ce temps-là, c'était des petites annonces dans les journaux locaux. Et il y avait une petite annonce pour un contrat de 6 mois chez Altergo pour le défi sportif Altergo, comme quoi qu'ils cherchaient un coordinateur, un adjoint à la programmation sportive. Et j'ai appliqué, puis 6 mois après, ben, Monique Lefebvre m'a dit, écoute, je suis pas sûr qu'on va avoir de l'argent pour l'année prochaine. Ben, j'ai dit, écoute, on peut rester en contact, tout ça. On a réussi, elle et moi, à trouver des sous. Et de fil en aiguille, j'ai réussi après, je pense que ça a pris pas loin de 6 ans avant d'avoir un emploi à temps plein chez Altergo, mais je suis toujours resté là. Puis grandi un échelon après l'autre. Mais j'ai toujours tourné autour du monde du sport, que ce soit au début de ma carrière, j'étais dans l'événementiel au niveau du ski acrobatique, les débuts du snowboard aussi. J'étais dans des circuits provinciaux, donc je m'occupais de la logistique de ces événements-là. J'ai travaillé pour la Coupe du monde de ski acrobatique par la suite, donc j'ai grandi aussi dans tous les niveaux. Et par la suite, ben, c'est ça, je m'étais donné un petit break de 2 ans en retournant au Saguenay. Puis en revenant, ben voilà, j'ai trouvé Altergo m'a trouvé. Et ça fut un mariage parfait qui dure depuis 26 ans aujourd'hui.
Que c'est beau, c'est fou comment la vie fait bien les choses hein, quand même.
Oui, puis du hasard, une opportunité, puis écoute, on en est bien fiers encore aujourd'hui.
Eh oui, puis tu parles de Monique Lefebvre, hein, qui est, je veux dire, une icône aussi chez Altergo, évidemment, mais dans le monde du sport adapté, elle est toute une personne.
Oui, Monique, elle a fait beaucoup, pas juste dans le milieu du sport, je dirais, dans le milieu de l'accessibilité universelle,
oui.
Ou des villes. S'est impliquée beaucoup, reçoit encore beaucoup de prix pour ce qu'elle a fait. Le leg qu'elle laisse aussi, c'est beaucoup. À la blague, on se parle encore régulièrement. Lorsqu'il y a eu la pandémie, ben, je l'ai appelée parce que moi, j'étais à ma première année en tant que président-directeur général. Monique venait de quitter ses fonctions.
Oui.
Et 6 mois après, on tombe en pandémie. Fait que je l'ai appelée et j'ai demandé, Monique, tu me laisses plein de beaux dossiers, plein de belles archives, mais je ne trouve pas le dossier pandémie ou annulation du défi sportif Altergo. Ben, c'est Maxime. T'as toujours innové. Alors, innove dans cette pandémie, cette annulation du défi sportif Altergo. Donc, c'est ça. Encore une fois, on n'a pas suivi la piste tracée qui était prévue que Monique et moi, on avait fait pendant 2 ans. Comment préparer son départ, et ainsi de suite. Et ça, c'est arrivé. Puis, on regarde aujourd'hui, on en est sorti gagnant, je crois.
Oui.
Avec l'ensemble de l'équipe avec qui je travaille, qui sont dévoués. On s'occupe d'eux, on s'occupe de nous aussi. Je trouve ça hyper important. On a un conseil d'administration qui nous appuie dans toutes les démarches qu'on fait aussi. Un conseil d'administration qui est très ouvert à se faire challenger, à nous challenger. Donc, ça aussi, c'est positif. Donc, oui, Monique, c'est un bel emblème pour le milieu des personnes handicapées à grandeur de Québec.
Complètement. Et tu nous parles du défi sportif. Je propose qu'on passe à une pause musicale pour avoir plus de temps, justement, d'en parler après. Donc, on se retrouve dans quelques minutes.
Amsterdam, qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandy aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal,
On l'a reconnu, c'était Ariane Moffatt et sa magnifique chanson « Je reviens à Montréal ». Et Maxime Gagnon, ben, on comprend bien que c'est une chanson en fait qui raconte un peu ton histoire.
Ben oui, Ariane, c'est le nom de ma fille.
Ah, en plus.
En plus. Et revenir à Montréal, ben, je suis quelqu'un qui aimait et qui aime encore beaucoup voyager, qui a eu la chance de voyager par le sport. Donc, c'est une petite chanson qui est tout le temps dans ma playlist à quelque part que j'écoute quand on revient à Montréal, quand on est dans l'auto en revenant à la maison, des choses comme ça. Donc, j'aime bien l'écouter pour me dire, ben, on est revenu à Montréal, on s'en vient. Donc, c'est un peu cette image-là que j'ai de cette chanson-là.
Puis tu le partages avec tes enfants. Donc, tu as une fille qui s'appelle Ariane, mais tu as 3 enfants.
Oui, j'ai 3 enfants. Je suis d'une famille reconstituée. Donc, ça fait plus de 15 ans que je suis avec ma conjointe. J'ai Alexandre et j'ai Lauriane. Alors, quand on s'est connus, on a bien ri quand on avait une petite Ariane et une petite Lauriane. Ils ont à peine 1 an de différence entre les deux. Et ouais, et on a un grand garçon maintenant qui va avoir 25 ans. Là, les trois ont une très belle carrière, sont aux études, on est grands-parents déjà.
Oh, bravo!
Oui, on est grands-parents depuis 1 an et demi.
Ah oui!
Lauriane fait la surprise d'une petite fille et je crois que bientôt, ça ne me surprendrait pas qu'on soit grands-parents d'un deuxième éventuellement, rapidement. Oui. Je pense qu'elle a pris goût. Elle a cette fibre maternelle-là, Lauriane.
Voilà, quand ça commence, ces histoires-là, ça ne s'arrête jamais d'un coup sec. Hein?
C'est en plein ça. Donc, non, 3 beaux enfants, donc on est bien fiers de ce qu'on fait avec eux.
Puis j'imagine que vous faites, ben eux doivent faire beaucoup de sport, mais vous tous ensemble en famille?
Ben écoute, je te dirais que j'en ai 2. Ma fille, moi, personnellement, n'est pas une grande sportive. Okay. C'est une adepte de la mode, des communications, de la vie qui bouge un peu plus. Mais Lauriane et Alexandre sont 2 gardiens de but en hockey. Ils jouent encore présentement et performent bien. Alexandre joue au para-hockey. Lui, il a demandé à un moment donné, ben, moi, les ligues de garage, ça ne m'intéresse pas, je veux continuer à me développer. Fait qu'est-ce que je pourrais être gardien de but en para-hockey? Je dis, ben oui, viens l'essayer. Fait qu'il a bien aimé ça. Lauriane joue au deck hockey, malgré maintenant qu'elle est maman. Mais oui. Non, écoute, 3 beaux enfants, puis tous en santé. Et le sport en famille, je pense qu'on se déplaçait plus en aréna ou aller voir les spectacles de danse d'Ariane, quoi que ce soit. C'est un peu comme ça qu'on fonctionnait. Mais on a mis le sport un peu de côté, maman et moi. Mais tranquillement, on se refait une place là-dedans. C'est quelque chose qui est important.
Oui, complètement. Et là, donc, on parlait évidemment parce que Altergo, ça, je veux dire, c'est un membre de ta famille, hein, sinon ta deuxième famille.
Oui.
Là, tu nous parlais avant la pause du défi sportif. C'est tellement un gros morceau, une partie tellement importante chez Altergo. Qu'est-ce qu'on doit absolument savoir du défi sportif?
C'est un événement qui est unique au monde parce qu'on regroupe tous les types de déficiences sous un même toit. Donc, comparativement aux Olympiques spéciaux, c'est principalement la déficience intellectuelle, les Jeux paralympiques, la déficience physique. Nous, on va regrouper l'handicap intellectuel. On va regrouper l'handicap auditif aussi. Chacun a sa compétition. Donc, dans la programmation de 10 jours, maintenant, parce que c'est 10 jours de compétition, on a des compétitions de la relève, du développement et de l'élite. Donc, on va avoir des compétitions provinciales, on va avoir des compétitions nationales et on va avoir des compétitions internationales, des championnats du monde, des tranches de coupe du monde. Et on a quand même en moyenne, c'est entre 15 et 18 sports par année qu'on présente. Et on a en moyenne 24 pays qui sont présents aussi à chaque année. Donc, c'est un événement très intéressant, unique, qui est pour les personnes handicapées. Et je crois que ça va vivre longtemps parce que il n'y en a pas beaucoup d'événements comme celui-là. Puis les jeunes, on a quand même une belle relève. On a quand même plus de 8000 jeunes qui viennent à chaque année au défi sportif Altergo. Puis je pense que c'est une relève pour les différentes fédérations, les différents clubs sportifs. Puis de faire bouger ces jeunes-là, c'est important.
Oui.
Parce que les saines habitudes de vie et la vie active pour ces jeunes-là, souvent, c'est pas évident. Lorsqu'on est dans une école régulière, souvent, ils vont être mis de côté, soit gardien de but à la bibliothèque. Malheureusement, encore, ça se fait beaucoup. Donc, on essaie aussi de sensibiliser le milieu scolaire, les professeurs, les écoles, à leur dire qu'il y a des outils qu'on peut leur fournir pour faire participer ces jeunes-là, puis leur donner un but, un objectif, qui est de participer à cet événement-là, qui est à la fin avril, à chaque année.
Mm-hmm.
Donc, de commencer dès le début septembre pour s'entraîner. Pour ces jeunes-là, c'est important. Puis par la suite, ben, ils goûtent au sport. Ils peuvent embarquer dans des sports qui se pratiquent le soir, embarquer dans des clubs sportifs réguliers, souvent qu'on appelle, puis là, ils vont être inclus. L'inclusion, sensibilisation au niveau de la population en général, du monde des personnes handicapées.
Mm-hmm.
Donc, je pense qu'il y a plein... C'est un beau retour positif et c'est un événement qui est unique, qui dure depuis 38 ans maintenant.
Oui, c'est important de le mentionner et souvent, hein, on oublie à quel point cet événement est de très grande envergure. Puis d'ailleurs, bon, ça se passe toujours à Montréal, bon, à d'autres endroits aussi en même temps, mais la plupart du temps, en fait, l'activité centrale, c'est à Montréal.
Montréal, on touche un petit peu à la rive sud depuis quelques années. Éventuellement, on va toucher aussi à la rive nord avec Laval, parce que les plateaux sportifs qu'on a besoin sont immenses, parce qu'on reçoit beaucoup de compétitions en même temps. Donc, on pense entre autres au Cégep de Longueuil où on doit, faire des compétitions de basketball, où on utilise 4 à 5 plateaux de basketball en même temps.
Oui.
Donc, c'est des grosses compétitions qui ont lieu. Quand on utilise la piscine du Centre Audrey-Biard, c'est la piscine au complet pendant 5 jours parce qu'on a différentes catégories, différents styles de nage, différents types d'handicap. Donc, c'est des gros plateaux que ça nous demande. Mais on,
oui.
Est-ce qu'on va être capable de revenir à des grosses compétitions avec autant de gens sous un même toit? On ne le sait pas. On a différents scénarios déjà que l'équipe a mis en place pour le futur. Est-ce qu'on va devoir faire plusieurs petites compétitions de fin de semaine au lieu d'avoir une grosse compétition de 10 jours? C'est des choses auxquelles on se prépare. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais on va avoir des scénarios très sûrs.
Parce que, je veux dire, c'est ça, de penser à tous les impacts que la pandémie amène sur cet événement qui était tellement rassembleur. Franchement, Maxime, ça brise le cœur. Hein. Je sais comment vous l'avez vécu à l'interne chez Altergo, là, d'avoir manqué le premier défi qui était l'année dernière.
Bien, l'an passé, je te dirais qu'on ne l'a pas réalisé beaucoup parce que ça s'est fait au mois de mars. Et le défi sportif était à la fin mai. Donc, pendant 4 semaines, ce qu'on a fait, c'est qu'on a éteint du feu, on s'est assuré que... de prendre soin de tout le monde, de s'assurer de tu sais, il y avait toute l'international qui était en attente de venir à Montréal, tout le national aussi, les écoles, comment ça allait fonctionner. Donc, de tout mettre à une pause, on n'a pas eu le temps de... On l'a vécu après le deuil, si on veut, au mois de juin, juillet.
Mm-hmm.
Et là, cette année, on a pris le temps, on est à l'inverse cette année. Dès le mois de janvier, on s'est fait des plans A, B, C, tout dépendant de ce qui allait arriver comme scénario. Et on est arrivé avec une solution où on est semi-virtuel, si je voudrais dire. C'est qu'on fait participer les écoles, puis eux nous envoient leurs vidéos, nous envoient leurs résultats. Et à la lumière de ça, nous, on va leur faire parvenir des médailles à grandeur de la province parmi les écoles qui vont avoir participé. C'est plus de 2000 jeunes quand même qui vont participer cette année à cet événement-là, dit semi-virtuel. Donc, c'est intéressant. On a mercredi aussi où on a eu des compétitions de mini-marathon. Donc, dans chacune des écoles, ils partaient en même temps leur mini-marathon. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi.
Ça donne juste envie de dire chapeau, 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 parce que c'est fou les retombées que ça amène. Et j'ai envie de dire, je pense à la fameuse cérémonie d'ouverture à laquelle j'ai eu la chance d'assister aussi d'ailleurs. Mais ça en donne des frissons, hein, parce que de voir ces jeunes, ces enfants, tous avec leurs différences, leurs limitations, qui arrivent avec leurs marchettes, leurs prothèses, les cannes, peu importe, et qui ont le sourire et l'ambiance... je veux dire, c'est incroyable, c'est une ambiance de fou. Et évidemment, bon, oui, ça vaut la peine quand même de dire que c'est Jean-Marie Lapointe qui mène en fait le bal pendant tout cet événement. Jean-Marie Lapointe aussi qui est tellement dévoué hein, pour cette cause-là.
On a quand même des beaux porte-parole avec nous. On a Jean-Marie Lapointe qui est là depuis des années. On a Hugo Gérard qui s'est joint à la famille depuis 5 ans. Mm. On a Chantal Petitler qui est là depuis 20 ans aussi. Et on a Nancy Audette maintenant qui est la nouvelle, qui vient d'embarquer dans la famille. Là. Donc, ce sont des gens qui sont dévoués pour faire la promotion et faire parler de cet événement-là.
Bon, on va garder un œil ouvert et une oreille aussi pour justement suivre tout cet événement de façon, comme tu dis, un peu plus virtuelle. Mais quand même, ça va avoir lieu. Donc, l'invitation, elle est lancée, Maxime. Et j'ai envie, pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a un sport, parmi tout ce que tu me dis, tu baignes tellement dans ce milieu, est-ce qu'il y a un sport que tu n'as pas pu encore essayer?
Oui, puis c'est drôle, tu me parles ça, puis les sports équestres, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé, que j'aimerais peut-être essayer un jour, que ce soit l'équitation, les concours équestres, que ce soit jouer au polo, c'est l'image qui me vient en tête au moment où tu me parles, le sport équestre, j'ai jamais essayé.
Eh bien, je te le souhaite, de le découvrir, je sais pas quand est-ce que ça peut être possible dans ton horaire incroyable, parce que franchement, où tu fais, Maxime, si tu peux nous donner un truc, tu le trouves où ton temps pour faire non seulement ton travail, mais tout le bénévolat que tu fais auprès des athlètes?
Je pense que c'est la passion puis l'opportunité qui fait la place que je donne à chacun. et d'essayer d'être le plus équitable possible envers tous, la famille, le sport, le bénévolat, la carrière au travers de ça. Puis de prendre un peu de temps pour soi aussi, je trouve le temps d'en prendre. Des fois, je me néglige, mais quand vient le temps d'en prendre, je le prends, puis je pense que c'est grandement bénéfique après ça pour l'ensemble des gens qui m'entourent ou des équipes qui m'entourent.
Complètement. En tout cas, je te taquine, Maxime, là, mais je pense que le prochain directeur, lui, va l'avoir, ton dossier, avec le chapitre pandémie.
Pandémie, oui, sûrement.
Oui, exactement. Et pour terminer, bon, en tout cas, moi, je retiens de toi la notion de plaisir. C'est quelque chose qui est important. Tu parles de passion, mais voilà, passion, ça vient avec le plaisir. C'est ce que tu dégages, c'est ce que tu transmets. L'image que j'ai de toi, c'est un homme qui... On dirait que tu es sur des roulettes, toi. Tu es sur des patins, puis tu files à tout à l'heure, à toute allure. Tu es à plein d'endroits en même temps. Mais franchement, je te lève mon chapeau. Je suis contente, je suis heureuse de te connaître, Maxime. Et... j'ai envie de te dire bonne chance dans la suite, dans tout ce qui t'attend, autant au sein d'Altergo que dans ta vie d'entraîneur, de papa et dans tout ce qui suit.
Merci beaucoup, bien gentil.
Au plaisir, mon cher.
Au plaisir.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été avec nous comme à chaque semaine. Et si vous voulez réécouter les émissions ou les partager avec vos proches, allez sur le site canalm.vusezvoix.com pour pouvoir tout réécouter, ou alors même sur les plateformes de diffusion. Et je remercie mon équipe de radio qui m'est très chère. Le travail d'équipe, comme le mentionne Maxime Gagnon, c'est important. Eh bien, c'est important au travail aussi. Alors, merci Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien, La Liberté, à l'habillage sonore. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, tout le monde.